En pratique, la motivation de la législation pour les gens qui défendaient l'allongement de la période d'interruption possible, c'était surtout le comparatif avec les pays voisins, qui obligeait un certain nombre de femmes en France, qui n'avaient pas toujours les moyens de le faire, de devoir partir à l'étranger. Donc il y avait une disparité à ce niveau-là au niveau européen. Et donc ça a été l'élément qui était mis en avant le plus souvent. Par contre, d'autres éléments comme la suppression de l'entretien préalable n'étaient pas spécialement demandés, loin de là, par les professionnels. Au contraire, il a fait partie de la loi quand elle est sortie, avec d'autres éléments d'ailleurs. Les problèmes des mineurs étaient un problème qui est très discuté, qui continue à l'être, puisque vous savez qu'on peut très bien faire maintenant une intervention sous anesthésie générale sur une mineure sans avoir besoin d'aucune autorisation des parents, et que l'accompagnant peut être n'importe qui. L'accompagnant peut être le petit copain qui a 18 ans et un jour. Et il reste en somme sur le dos des professionnels, finalement un petit peu dans la loi, avec les phrases qui existent, finalement d'apprécier, etc. Mais donc c'est pas malheureusement une possibilité pour le professionnel. Donc il y a beaucoup de choses dans cette loi qui semblent, enfin à mon sens, très mauvaises, en régression énorme, et en diminuant, en donnant l'impression de vouloir, disons, faciliter les choses pour les femmes, de leur ouvrir davantage le choix. En réalité, de leur supprimer beaucoup de possibilités par le biais de la suppression de cet entretien, par le biais du développement à domicile du RU, qui je crois est une énorme erreur dans ce qui est fait. Le RU, on en a parlé, vous en avez parlé à plusieurs reprises, mais en fait, le RU, il est pire que ça, je trouve. C'est-à-dire qu'on prend d'abord les comprimés de Mifégine, mais on a ensuite un autre médicament qu'on va utiliser à 36 ou 48 heures plus tard. C'est-à-dire que la femme vit en ayant pris déjà sa Mifégine et en sachant qu'on a toujours un gamin qui est vivant, qui va bien. Et en fait, on a parlé d'empoisonnement à un moment, c'est tout à fait le sentiment qui peut ressortir à certains moments. Et je crois que ça doit être... Je ne suis pas une femme, mais je pense que ça ne doit pas être très bien vécu. Alors jusqu'à présent, le deuxième médicament qui donnait lieu à l'expulsion de l'embryon normalement tué, entre guillemets, par les comprimés de Mifégine, se faisait en milieu hospitalier. Il y avait une obligation d'hospitalisation qui avait été réduite d'ailleurs depuis 2 ans, je crois, à 3 heures, une demi-journée, 3-4 heures, aucune importance. Et même cette obligation a disparu. C'est-à-dire que maintenant, avec la législation, vous donnez à la femme ses comprimés qu'elle n'est pas obligée de prendre. Après tout, elle peut partir avec et les jeter. On lui donne également les comprimés, les deuxièmes comprimés, si vous voulez, ceux qui servent à l'expulsion, elle part avec également. On ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas qui les prend. Elle peut les donner à quelqu'un d'autre, finalement, qui pourrait les prendre. Elle peut avoir des accidents à domicile, et on a tous, enfin, en professionnel, on a tous des souvenirs à 2 heures du matin de femmes ayant pris des RU et du Cytotec qui arrivent avec des hémorragies importantes, alors que personne n'est au courant, qu'il n'y a pas de bilan préalable, qu'on n'a pas de groupe sanguin, qu'on n'a rien du tout. Pour les familles, c'est encore pire quand elles ne sont pas informées devant des hémorragies qui peuvent être graves. Il n'y a plus de prise en charge, même si l'entretien reste obligatoire théoriquement pour les mineurs. La jeune femme de 18 ou 19 ans qui n'est plus mineure peut très bien ne pas avoir d'entretien, donc pas d'information pour après. Et l'entretien post-IVG qui est énorme, même s'il est prévu toujours sur un plan théorique dans les textes, est très difficilement mis en place. Il n'y a pas eu un entretien pré-IVG avec lequel les gens ont pu avoir confiance en quelqu'un avec qui ils ont parlé, avec lequel ils accepteront de revenir plus facilement après l'IVG. Donc je crois que la loi, qui au départ est faite pour améliorer et permettre aux femmes d'avoir une plus grande liberté, en fait est porteuse d'énormément de conséquences négatives pour ces interruptions de grossesse.
Je voudrais savoir si cette obligation, cette nouvelle façon de donner la RU à la maison, comme vous dites, c'est obligatoire ou c'est, on peut laisser le choix à la personne. C'est ce qu'on peut, est-ce que la femme a le choix d'être hospitalisée ou d'être est-ce qu'on lui laisse le choix? Parce que les expériences qui ont été faites en Tunisie et à Cuba autour de justement l'interruption médicamenteuse à la maison ont montré que les femmes avaient un vécu différent, c'est-à-dire elles se sentaient plus dans leur intimité que si c'était difficile. C'était des fois plus difficile d'aller en milieu hospitalier que de rester chez elles, où elles pouvaient vivre ça au quotidien et peut-être pas rajouter de la culpabilité là où peut-être elles n'avaient pas à en mettre. Parce que parfois, on se culpabilise, on a honte d'aller donner son corps à quelqu'un, moi je pense aux femmes qui passent au bloc, c'est pas toujours évident de se trouver dans cette posture pour l'aspiration, et que l'interruption médicamenteuse peut être un plus, et je dis bien pour certaines personnes, pour certaines femmes. Et je pense que le choix peut-être être laissé. Je crois qu'on peut faire confiance peut-être à la femme qui accepte de le vivre comme ça, comme étant un choix supplémentaire. Et je pense qu'il ne faut pas trop fermer ça. C'est très difficile à accepter, mais moi je pense qu'on peut peut-être le voir autrement. Je parle en tant que femme.
Oui, je vous comprends très bien, mais là, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, la culture n'est pas la même. La Tunisie et Cuba, ce n'est pas tout à fait la culture française. Et je crois que dans certains pays, effectivement, de vivre comme un accouchement, d'ailleurs pareil, le vivre à domicile peut être beaucoup mieux vécu qu'en milieu hospitalier. Par contre, se pose quand même dans nos sociétés, disons plus performantes, quand même un problème de sécurité et des règles qui obligent quand même à se trouver, lorsque même le RU est pris à la maison et que l'interruption se fait à domicile, c'est sous réserve d'être à moins d'un quart d'heure d'un centre de prise en charge au niveau chirurgical en cas de complication. Deuxième chose, autant il est tout à fait intéressant de laisser prendre du RU à domicile, d'abord parce que ça soulage certains services hospitaliers, et le choix est toujours donné aux personnes et aux femmes, enfin je pense dans pratiquement tous les centres. C'est un intérêt pour la société au niveau financier, parce que ça diminue beaucoup le poids financier de l'interruption de grossesse. Autant je pense que ça ne peut se faire qu'avec une information très complète et une prise en charge un peu préalable. C'est-à-dire qu'un entretien très bien fait avant la prise de RU à domicile va donner lieu à une information complète, à une personne qui, en cas de problème, saura comment elle revient, etc., qui acceptera d'ensuite de recourir, peut-être, de pouvoir parler avec les gens qui l'ont prise en charge. Lorsque, par contre, elle sera faite, cette prise à domicile, d'une façon un petit peu clandestine, presque, avec la femme qui vient, qui n'a pas d'entretien, qui demande simplement ses comprimés, parce qu'elle peut très bien exiger que ça se passe comme cela, je crois que là, c'est une mauvaise chose.
Je crois qu'il en est de même pour la prise de certains médicaments. Moi, je pense à une personne qui est sous anticoagulant, qui se retrouve chez elle et qui ne connaît pas toujours les conséquences d'une prise d'anticoagulant. Tout médicament a effectivement un effet, parce que sinon, on ne le prendrait pas. Et je pense que on a un peu de mal, effectivement, à voir ça comme ça. Mais je ne peux pas imaginer qu'un médecin laisse une personne avec de tels médicaments s'il n'a pas évalué que cette personne était... Je veux dire, c'est difficile d'évaluer ce que pense la personne et ce qu'elle va faire, effectivement, qu'elle puisse prendre ou ne pas prendre. Mais c'est du même... C'est pareil pour tous les médicaments qui sont un peu dangereux, et des médicaments dangereux dans toutes les maisons, il y en a énormément. On voit les suicides quand même avec des médicaments qui sont au quotidien donnés sans beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistance. Je reconnais que là, c'est un peu particulier. Je titille un peu hein, quand même, parce que je me dis qu'on a besoin de réflexion et de réfléchir, effectivement. Mais c'est pour ouvrir un tout petit peu le débat autour de l'interruption de grossesse, qui reste toujours quand même très problématique en France. Et moi, je voudrais qu'on évolue un tout petit peu, parce que je pense qu'il y a des difficultés aussi pour des accouchements, pour des choses très, très, très particulières qui sont autres que l'interruption de grossesse. Mais moi, il me semble quand même que c'est un plus, et je suis d'accord qu'il faudrait un accompagnement différent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça se passe 5 minutes dans un cabinet de médecin, et que ce qui serait peut-être intéressant, c'est qu'il y ait quelqu'un, genre conseillère, psychologue, dans le cabinet du médecin au moment de la consultation, qui pourrait peut-être évaluer, proposer ou se trouver là si la personne a besoin d'aide. Mais c'est pour beaucoup de choses comme ça.
Alors la loi va dans l'inverse de ce que vous venez de dire, malheureusement, puisque donc le RU pourra être distribué par les médecins généralistes, qui les pauvres n'auront pas dans leur cabinet une conseillère conjugale ou une psychologue à proximité, sauf si les médecins sont eux-mêmes orientés analyse ou psy en général. Et avec la législation, ça sera vraiment dû à domicile pur la plupart du temps. D'autre part, on ne peut pas, je crois, comparer la prescription de médicaments avec les problèmes de RU. Les médicaments donnent lieu à une information complète. Ce sont des traitements qui sont prévus pour des longues durées ou moins longues, mais avec des possibilités de temps d'information qu'on n'a pas dans l'urgence, souvent, qui est pour le RU, où la possibilité de discuter n'est pas toujours la même et pas aussi longue de toute façon. Mais l'information doit être faite. Si elle n'est pas faite, c'est qu'il y a eu un manque quelque part. Elle est prévue par la loi, elle est faite par les médecins, je pense, d'une façon habituelle et normale. Tout à fait. Le RU n'a pas les mêmes dangers. Il faut être réaliste. Le RU n'a pas d'effet secondaire connu. Il n'y en a pas. Vous pouvez donner du RU, aussi bien à une époque, on disait, il ne faut pas faire d'intervention médicamenteuse aux femmes de plus de 40 ans, aux femmes qui fument. C'était complètement depuis abandonné. Le problème n'est pas le RU, il est le deuxième médicament qu'on leur donne. Il n'y a aucun effet secondaire du RU. Et le Cytotec, mais même le deuxième médicament que l'on donne, il est prescrit, ça coûte 15 francs ou 20 francs la boîte de 30 comprimés, il est pris sans problème pour tous les problèmes d'estomac et sans avoir aucun effet secondaire pratiquement. Donc, pourquoi on ne donne pas plus souvent? On est pris par des limites de durée, on prescrit le RU sur des grossesses d'un âge relativement jeune pour avoir un pourcentage de bons résultats, c'est-à-dire jusqu'à une cinquantaine de jours, en théorie, la législation c'est ce qu'elle prévoit, ou 50, je sais plus, ou 51, aucune importance, pour avoir des taux de l'ordre de 85% de résultats positifs. Donc on est pris pour beaucoup de femmes, malheureusement, n'ont pas le temps d'avoir une consultation, de décider, etc. C'est des jours d'aménorrhée hein, dont on parle. C'est-à-dire que si la femme s'en aperçoit, elle est déjà souvent à 36, 37 jours, il lui reste 12 jours pour prendre sa décision, et voir le médecin, prendre son RU, etc. Donc on est avec des limites de temps qui sont vraiment très très grandes. C'est la première raison pour laquelle on n'en donne peut-être pas suffisamment, c'est vrai. D'autre part, il y a une prise en charge qui est parfois plus difficile qu'une aspiration, qui est plus simple, entre guillemets, pour les médecins. Il faut bien reconnaître que dans certains centres, y compris dans le mien, on fait beaucoup d'aspirations parce que c'est quelque chose qui peut relativement bien se programmer. Alors que le RU est plus difficile de par l'urgence et de par parfois les effets secondaires. Et donc, il faut une très bonne organisation si on veut que les gens ne prennent pas de risques et que soi-même, parce qu'il faut aussi être réaliste, il y a le problème aussi du professionnel, de pouvoir répondre aux accidents possibles, entre guillemets, non pas du RU en tant que RU, mais de la fausse couche provoquée ou de l'avortement provoqué par le médicament qui nécessite une prise en charge qui peut être d'urgence majeure sur le plan hémorragique. Et à ce moment-là, il faut effectivement avoir une bonne organisation de services. Mais vous savez que pour les interruptions de grossesse, les gens sont mal organisés, qu'il n'y a pas beaucoup de services qui les font comme ils devraient le faire, qu'il n'y a pas toujours l'argent nécessaire pour avoir les personnels aussi qu'il faut, que beaucoup de médecins hospitaliers ne veulent pas les faire, que c'est souvent dévolu à des généralistes attachés, bénévoles. Et ce qui est très bien dans certains centres n'est pas du tout dans d'autres, malheureusement.
Oui, oui. Oui, pour reparler un peu humanité, et pour avoir vécu donc dans des entretiens quand même des paroles de femmes, des paroles, leurs vraies paroles, de ce qu'elles disaient par rapport au RU, c'est qu'elles avaient vraiment l'impression d'expulser elles-mêmes, de se vider. On prend donc l'expérience comme ça du vide autour du ventre. Pour reparler aussi d'une expérience il y a 20 ans, quand même, personnel, au centre hospitalier donc universitaire de Reims dans la Marne avec le professeur Val, qui a peut-être maintenant je ne sais plus quel âge, mais néanmoins où on accompagnait jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout, la femme, c'est-à-dire que le lieu où les IVG par aspiration ou le RU existait beaucoup moins à ce moment-là, mais par aspiration se faisait, il y avait vraiment 5 minutes à y aller. Et le professeur qui les pratiquait, donc venez nous voir, venez voir la femme à l'endroit où nous étions, on repartait. Enfin, il y a vraiment, c'était vraiment un centre d'orthogénie, ce n'était pas appelé comme ça. Si vous pouviez me citer le nombre de services d'orthogénie qui existent en France, ce serait intéressant, Madame Calatayud, pour moi en tous les cas, parce que je ne sais pas, il y a Colombes, il y en a peut-être, il y en a-t-il combien actuellement?
Non, je ne peux pas vous le citer. Par contre, tout à l'heure... une personne faisant partie du public y a fait allusion, alors qu'il y a peut-être des compétences dans ce domaine-là. C'est vous, madame, qui m'avez parlé tout à l'heure? Non, la dame qui est derrière vous. Mais on en a parlé ensemble. Oui, mais est-ce que, puisqu'on en a parlé, on y a fait allusion, est-ce que vous connaissez le nombre?
Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout.
Il y en a pas.
Des centres d'orthogénie, entre guillemets, c'est-à-dire des centres de planification et d'éducation familiale attachés à un centre d'orthogénie. Le centre d'orthogénie, ça peut être un grand centre d'orthogénie, mais c'est très souvent un petit centre. Un petit centre, c'est-à-dire qui pratique des interruptions volontaires de grossesse d'une façon réglementaire, et tous les hôpitaux publics doivent pouvoir assurer cette activité depuis la dernière loi en étant rattaché au service de gynéco-obstétrique, et depuis la loi Veil, depuis 1975, qui devait être rattaché au centre hospitalier pas forcément au service de gynéco-obstétrique, mais qui devait être rattaché. Et des places étaient spécifiquement prévues dans tous les hôpitaux publics.
Alors dans l'Essonne, en tous les cas, pas où nous n'avons pas cette expérience, docteur. On le regrette d'ailleurs.
Comment ? Je n'ai pas compris.
Dans l'Essonne, nous n'avons pas ce type de j'entends très bien ce que vous
dites. Alors, il y a des départements, mais c'est très vrai ce que vous dites, mais quand on parle d'interruption de grossesse, on ne peut pas comparer. Vous avez des endroits où c'est fait de façon nulle, lamentable, des endroits où c'est très très bien pris en charge. Il y a des départements où il est impossible d'avoir une interruption de grossesse. Dans la région PACA, vous avez des grandes villes où il est impossible d'avoir une interruption de grossesse parce que les rendez-vous sont donnés aux gens au-delà de la limite légale. Donc, les gens vous disent, ah, mais on n'est que deux à travailler, qu'est-ce que vous voulez, les rendez-vous vous sont pris sur 2 mois, on vous le donne dans 2 mois. Elles ont déjà dépassé les limites légales. Évidemment. Donc c'est vrai que tout est cas particulier. C'est un peu une des raisons pour lesquelles la loi a été un peu modifiée aussi.
D'accord, merci.